L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu! Dieu est bon, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas souvent que vous me voyez ici. Et puis, parce que vraiment, Dieu m'a donné un message et je me souviens, j'étais dans le salon puis j'ai dit à mon mari, on avait une conversation, j'ai dit, je sais pas, mais je pense que Dieu veut vraiment que je prêche sur l'amour de Dieu. Et ça peut sembler un sujet anodin, ça peut sembler quelque chose qu'on prend pour acquis, l'amour de Dieu, ben ouais, mais dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on doit comprendre plus profondément. Et vraiment, on comprend que Dieu est amour. On peut comprendre que Dieu est amour. Mais c'est ça, Dieu veut vraiment qu'on aille dans une profondeur différente. Le sujet est immense, l'amour de Dieu. Je pourrais dire plein de choses aujourd'hui, mais je vais vous partager qu'est-ce que Dieu a vraiment mis sur mon cœur. Et je prie vraiment qu'il y ait un esprit de sagesse et de révélation, vraiment que vos cœurs soient ouverts. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes chrétien, peut-être que ça fait très peu de temps, mais peu importe, je crois vraiment que ce message, c'est vraiment le message qui vient du cœur de Dieu. Et c'est un message qui est libérateur, vraiment. Et bon, vous connaissez le petit cœur « Oui, Jésus m'aime ». Est-ce que vous connaissez le petit cœur « Oui, Jésus m'aime ». Il y en a que vous l'avez appris à l'école du dimanche, il y en a que vous n'êtes jamais allé à l'école du dimanche. Mais en fait, Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Dans 1 Jean 4, 8, la parole de Dieu nous dit qu'il est amour. Et dans le fond, Dieu, c'est l'essence même de qui il est, parce qu'il a créé l'univers par amour. Dieu était tellement amour, il voulait créer, il nous a créés parce qu'il avait besoin de donner cet amour. Donc, l'univers était vraiment créé par son amour et son amour pour vous et moi ne peut pas grandir, ça ne peut pas changer. Et dans Jérémie 31, 3, ça dit « Je t'aime d'un amour éternel ». D'un amour éternel. Ça veut dire qu'il vous a toujours aimé, ça veut dire qu'il vous aime présentement et ça veut dire qu'il va toujours vous aimer. Passé, présent, futur, sa parole ne change pas. Si on établit ça dès le départ, que la parole de Dieu, c'est la vérité, que ce qu'il dit dans sa parole, fermement, je crois ce que Dieu dit dans la parole, alors on va vraiment pouvoir établir ce que l'on croit sur ce qu'il dit. Alléluia. Souvent, la religion nous enseignait qu'on devait mériter l'amour de Dieu. Vous savez, on devait faire des choses. Peut-être l'arrière-plan dans lequel vous venez vous a enseigné vraiment que vous deviez mériter l'amour de vos parents, l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est éternel et il ne change absolument pas. Et pour que son amour nous transforme réellement, on doit vraiment passer de la connaissance à la révélation. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens 1, 17, s'il vous plaît. Et moi, je peux vous dire une chose. Quand on a une révélation de la part de Dieu, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Vraiment, quand je me suis mariée, j'ai été diagnostiquée avec une maladie incurable et j'ai dû bâtir ma foi dans l'épreuve et j'ai dû choisir la vie, en fait. Parce que c'est la maladie, vous savez, c'est destructeur, mais la parole de Dieu nous dit de choisir entre la vie et la mort, et j'ai choisi la vie, j'ai choisi de croire les promesses de Dieu, mais j'avais pas de fondation à propos de la guérison, et j'ai dû connaître, découvrir les promesses de Dieu à propos de ça, et bâtir ma foi dans la tempête. Mais une fois, par exemple, que j'ai eu la révélation que Jésus guérissait, que Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement, que Dieu était celui qui m'a guéri. Par ses meurtres et ça, vous avez été guéri. Il n'y a personne, il n'y a pas un démon de l'enfer qui est capable de me faire croire le contraire. Il n'y a pas un seul de vos arguments qui pourrait me faire changer d'idée, vous savez. Et aujourd'hui, le message vraiment qui est dans mon cœur, c'est qu'on puisse comprendre ensemble vraiment l'amour de Dieu, à quel point il nous a aimés. Alors, j'aimerais juste lire Éphésiens 1, 17, qui dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Ah, j'aime ce passage. Je peux vous dire une chose, dans mon temps avec le Seigneur, presque à chaque jour, je déclare ça sur ma tête, sur mon mari, sur mes enfants, parce que la vie chrétienne, c'est une succession de révélations. Si on n'a pas de révélation, c'est que il manque quelque chose dans l'équation. Parce que on peut lire des versets, ah oui, ben Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On peut prendre tous ces versets-là pour acquis. Mais des fois, on peut arriver sur un verset et dire, wow, là, cette journée-là, vous avez un réma. Vous avez une révélation plus profonde de ce que vous aviez compris. Et la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est vraiment ça, c'est ce qu'il veut, c'est de gloire en gloire et c'est de révélation en révélation. Et vraiment, juste un petit peu plus loin dans Éphésiens 3, nous voyons vraiment c'est une autre prière. Et je vais vous la lire, mais dans la version Semeur, parce que je la trouve vraiment belle. Éphésiens 3, 17, c'est dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Ça, c'est vraiment le fondement du message que j'ai pour vous aujourd'hui. Dieu veut que nous sachions quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour. Et vraiment, c'est quelque chose que je suis encore en train de découvrir parce que j'ai compris certaines choses, mais je crois pas qu'en tant que chrétien, on peut jamais affirmer d'être arrivé avec Dieu. Et vraiment, ce que ce passage-là nous dit, c'est que l'amour de Dieu est d'abord une chose que l'on comprend. Ça dit, au verset 18, vous serez ainsi à même de comprendre. Et juste plus haut, ça dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Quand on accepte le Seigneur Jésus dans notre cœur, alors on a eu cette foi en lui. Et quand on a cette foi en lui, on peut être solidement, il souhaite que nous soyons enracinés et solidement fondés dans l'amour. OK? Mais ça dit que vous serez à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alors c'est nous ça. Et si vous ne appartenez pas à Dieu aujourd'hui, vous pouvez lui donner votre vie. C'est d'une simplicité désarmante. Dites oui. Dans le monde aujourd'hui, les gens sont gérés par leurs sentiments. Aujourd'hui, oh, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et souvent, on peut se réveiller et dire aujourd'hui, je ne sens pas que Dieu m'aime. Peut-être que vous êtes déjà réveillé et vous ne vous sentez aucunement que Dieu vous aime. Mais dans le fond, ça ne sera jamais votre âme qui va pouvoir vous dire que Dieu vous aime parce que sa parole est éternelle. Donc, c'est une chose que l'on doit connaître, que l'on comprend. L'amour de Dieu est une chose que l'on comprend okay, quand on a cette révélation. Et cette révélation-là, ça nous vient, son amour a été semé dans la personne de Jésus, la semence incorruptible. Et c'est une semence qui ne meurt, qui ne pourrit pas, qui ne change pas. Et quand on reçoit le Seigneur Jésus dans notre vie, c'est un dépôt de cette semence-là dans notre cœur. Et comme on comprend, comme on a la révélation, comme on passe du temps dans sa présence, eh bien, cette semence-là, elle grandit en nous. Et on peut devenir cet arbre planté près des courants d'eau, comme il nous est décrit dans le psaume 1. On peut devenir un arbre vert, avec plein de verdure, parce que vous avez connu, parce que nous avons connu l'amour de Jésus. Et vraiment, ce qu'il a envoyé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Jésus, c'est ce qu'il y avait de vraiment, vraiment plus précieux pour restaurer notre relation avec lui. Et une fois que la semence de Jésus est bien enracinée, une fois que cette semence-là est enracinée, il n'y a personne qui peut la déraciner. Une fois que vous avez décidé qu'elle était là, qu'elle a bien pris, qu'elle a des grandes racines, personne ne peut l'enlever. Je peux vous dire, personne ne pourrait me dire « Dieu ne t'aime pas ». Pourquoi? Je ne le juge pas par mes sentiments, je le juge par la parole. Je le juge parce qu'est-ce que Dieu dit de sa parole. Et c'est ce que nous devons faire, c'est garder nos yeux fixés sur la parole. Et la pleine révélation de son amour va vraiment causer en nous une révolution qui va nous changer de l'intérieur dans notre esprit vers l'extérieur. Vous savez, on est corps, âme et esprit, et quand nous sommes nés nouveaux, nous avons un nouvel esprit, mais le reste, l'âme, nos émotions, notre pensée, notre volonté, doit être transformée par la puissance de son amour. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment refléter qui il est. Alors, s'il a fait ce sacrifice absolument, absolument glorieux et merveilleux, alors c'est parce que nous en valons le prix. Il a payé très cher. Jésus était son fils. Il l'a envoyé du ciel. Et, tu sais, vous comprenez, je peux dire toutes ces choses et dire, ouais, j'ai compris le salut, j'ai vraiment compris. Mais ce que je réalise, c'est qu'il y a vraiment une profondeur dans ça. C'est que si le Seigneur a envoyé ce qui avait le plus grande valeur à ses yeux, c'est parce que vous avez de la valeur. Et ça, le Seigneur veut vraiment que vous compreniez ça aujourd'hui, que vous avez de la valeur. Et en lui, nous sommes absolument, pleinement aimés. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jérémie 1:5. Vraiment une parole clé pour vous prouver ce que je vous dis. Je suis comme mon mari, j'aime bien ça prouver. Vous savez, on est condamné à être aimé par celui qui nous a créés. Vous n'avez pas le choix. Que vous le croyez ou non, il est écrit dans Jérémie 1:5. Si vous êtes avec moi, c'est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Quand mes enfants étaient jeunes, ils posaient beaucoup de questions, puis ils se demandaient, ils ont déjà posé la question, mais où on était avant? Mais là, on dit, ben, t'as grandi dans le ventre de ta mère, de moi. Et là, oui, mais où avant? Tu sais, c'est comme on a besoin du, spécialement félicité, on a besoin d'avoir le pourquoi, du pourquoi, de la raison. Et mon mari a dit, ben, dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu. Et vraiment, ça a vraiment répondu à tous leurs questionnements. Alors, si vous vous demandiez où vous étiez avant, vous étiez vraiment dans le cœur de Dieu. Et il avait pensé à vous. Et il y a une fille que j'aime beaucoup, qui est une adoratrice, qui s'appelle Kim Walker. Elle a eu une enfance assez difficile. Et un jour, elle était dans un temps d'intimité avec Dieu. Et elle lui a demandé... Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui a dit demande-moi comment je t'aime. Et Dieu, c'est un Dieu très personnel. C'est une fille un peu rigolote. Puis elle a vu Jésus et elle a vu Jésus avec des bras extensibles qui se sont ouverts comme ça, puis se sont étirés jusqu'à l'infini, jusqu'à ne voit plus la fin. Et il riait. Mais elle pouvait ressentir son amour dans ce geste-là des bras. Et c'est pareil pour tout le monde. S'il l'a dit pour elle, il dit pour vous aussi, il dit pour nous. Et après, elle lui a dit, « Demande-moi à quoi je pensais quand je t'ai créé. » Et tout de suite, elle a eu une vision de Dieu qui prenait sa main comme ça, qui arrachait un morceau de son cœur, et c'était comme de la pâte à modeler dans sa main. Et il s'est mis à s'amuser avec la pâte à modeler. Et puis, vraiment, il s'amusait, il avait du plaisir, puis il essayait des choses, puis il riait encore une fois. Et puis là, en fait, à la fin, elle s'est vue qu'il avait formé, c'était elle, et il l'a pris, et elle s'est sentie rentrer dans son cœur comme ça. Il y avait une place spéciale, exactement comme un morceau de casse-tête dans le cœur de Dieu. Il a pris la figurine, il l'a mis comme ça dans son cœur. Et ça convenait, ça fitait parfaitement, parfaitement, parfaitement. Et c'est vraiment ce que chacun d'entre nous sommes. Nous sommes une pièce. Nous avons été tous pris de son cœur. Il nous a modelés comme il a voulu. On est tous différents. On ne se ressemble pas tous. On a tous des personnalités différentes. Et vraiment, Dieu, c'est un Dieu de diversité. Et vraiment, il a voulu. Mais chaque personne, dans notre diversité, on a une place dans le cœur de Dieu. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Vous étiez dans son cœur avant même que vous naissiez. Et certains d'entre vous pensaient que vous êtes une erreur, ou on vous a dit que vous étiez une erreur, ou vous n'étiez pas planifié. Mais Dieu vous avait planifié. Dieu vous avait planifié longtemps d'avance. Peut-être qu'on vous a dit, ah, je pensais que tu étais un gars, j'aurais aimé mieux avoir un gars, mais finalement, tu es une fille. Ou l'inverse. Ah, tu es un garçon, j'aurais bien aimé ça avoir une fille. Mais Dieu, il vous a planifié une fille, si vous êtes une fille. Et Dieu vous a planifié d'être un garçon, un homme, si vous êtes un homme. Dieu ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses, n'importe quoi, le mal est tordu. Les gens pensent que Dieu s'est trompé de corps, toutes sortes de choses comme ça. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompe pas. Dieu avait pensé à vous. Et même si vos parents ne vous avaient pas planifié, Dieu vous avait planifié. Très important. Très important. Nous sommes nés vraiment. Nous sommes nés, nous sommes créés pour recevoir son amour parfait. S'il y a une place spéciale dans son cœur pour nous, c'est que nous avons été créés pour ça. Et vous pouvez méditer là-dessus si des fois vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Prenez des notes. Prenez des notes. Vraiment. Sa parole est vraie, puis sa parole ne change pas. Et la parole de Dieu dit aussi qu'il n'y a rien, il y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions. Il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un très bon père. Nous avons un père dans le ciel. Quand je suis née de nouveau, ça n'a pas été difficile pour moi de comprendre l'amour du Père, parce que mon papa m'aime. Quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune, en fait, toute ma vie, mon père me disait, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait aujourd'hui? » Je disais, « Non, je t'aime. » Mais là, quand je vieillissais, ça, pas que ça méritait, mais... Tu sais, vous savez, j'avais une genre d'attitude. C'était pas vraiment bon. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé... quelques années plus tard, quelle grâce j'avais eue. J'ai vraiment eu une grâce extrême d'avoir le Père que j'ai eu. Moi, mon Père est bon. Et le Père dans le ciel, il est bon aussi. Ça dit dans Romains 12, 2, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous comprenez? Moi, j'ai fait comprendre ça chez nous. On a fait comprendre ça à nos enfants dès un très, très jeune âge. Et c'est quand même assez simple. Dieu est bon, le diable est mauvais. Oui, en ce qu'on se comprend, le diable vient pour égorger, dérober, détruire. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et dans Romains, j'aimerais qu'on tourne dans Romains 8, 15, s'il vous plaît. Ça dit que, en fait, quand nous entrons dans la famille de Dieu, en fait, si vous n'aviez pas de famille, vous avez une famille instantanée. Parce que nous avons un Père instantané dans le ciel. On passe d'une créature de Dieu à un enfant de Dieu quand on est nouveau. Quand on l'invite dans notre cœur, on devient un enfant de Dieu. Nous devenons des fils et des filles. Et cela nous donne accès à un héritage. Cela nous donne accès à c'est toutes ces promesses, promesses de guérison, promesses de paix, promesses de restauration, promesses qui vont pourvoir à tous nos besoins, promesses qui vont nous protéger, promesses qui vont toujours être là à tout moment. Alléluia! Vraiment, il y a plein de promesses. Ce livre n'est pas juste un beau livre noir. Ce livre est rempli de promesses. Et quand on devient des fils et des filles de Dieu, ces promesses sont à nous. Nous sommes des héritiers, des héritières. Si vous avez déjà quelqu'un qui est mort dans votre famille, quelqu'un de près, et vous avez reçu un héritage, vous comprenez peut-être plus ce que cela signifie, ce que ça veut dire. Mais en fait, si vous avez jamais vécu ça, il faut juste se placer dans cette position-là que le Seigneur Jésus est mort et nous a laissé un testament précieux, rempli de promesses précieuses qui peuvent complètement transformer notre vie. Alléluia. Par la puissance de son amour, il nous a donné ça. On ne méritait pas vraiment. On ne méritait pas. Ce qu'on méritait, c'est la séparation de Dieu complète. Mais le Seigneur Jésus est vraiment venu complètement restaurer ce qui nous coupait. Des fois, on ne réalise pas, je pense. Tu sais, le voile était déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Plus besoin de sacrificateur, plus besoin de souverain sacrificateur, plus besoin de tuer des bêtes. On peut entrer dans sa présence. On peut le connaître plus intimement quand on devient un fils, une fille. Alléluia. Et vraiment, on peut lui demander avec audace, l'esprit de sagesse et de révélation qu'on a eu dans Éphésiens 1, pour vraiment qu'il nous révèle vraiment toute la splendeur de son héritage, toute la splendeur de ce qui nous appartient. Vraiment, c'est merveilleux. Quand on s'arrête à penser à ça, juste penser que toute l'éternité, on ne sera pas séparé de Dieu. On va être dans sa présence. Absolument formidable. J'ai tellement hâte. J'ai tellement, tellement hâte. Et dans Jacques 1:17, c'est un autre verset qui nous parle de l'image du bon Père. Ça dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le Père de gloire ne change pas. Le Père ne change pas. Il ne change pas. Il va toujours vous aimer. Il vous aimait, il vous aime, il vous aimera. Gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Maintenant, si nous comprenons que nous sommes acceptés en devenant des enfants de Dieu, avant même, vous êtes toujours acceptés de la part de Dieu. C'est lui qui vous a créé. Si on comprend qu'on est accepté dans sa famille, ça c'est vraiment, il y a une chose que Dieu voulait que j'appuie là-dessus. Cessez de vous mépriser. Cessez de vous détester vous-même. Si Dieu vous aime, si Dieu vous accepte, cessez de vous détester. Dieu vous dit, cessez de vous détester. Il y a beaucoup de haine tournée vers soi dans le monde qu'on vit à cause des standards. Hein, les standards sont souvent très, très, très élevés. La beauté, la performance, les supposément revues avec les supposément filles toutes retouchées, là. Mm-hmm. Même chose pour les hommes qui souhaiteraient avoir ce corps musclé parfait. Ou des fois, c'est de l'intérieur. Cessez de vous détester. On va tourner dans Psaume 139, 14. Pourquoi cesser de vous détester? Parce qu'il dit de vous que vous êtes une créature extraordinaire. Si vous avez besoin de le mettre en gros sur votre frigidaire, dans votre miroir, ça, j'ai eu à méditer là-dessus. Je le fais encore. Psaume 139, 14. 139:14. Je vais lire dans la Louis II en premier, ça dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alléluia! Mon âme le reconnaît bien. Ça, ça veut dire que ma tête peut le savoir, mais mon âme a besoin de le savoir. Mes émotions ont besoin de savoir que je suis merveilleux, que je suis merveilleuse. Ma volonté a besoin de savoir que je suis merveilleux, que je suis merveilleuse. Ma pensée a besoin de savoir que je suis merveilleux, je suis merveilleuse. Peut-être que vous ne le pensez pas encore, mais Dieu dit ça de vous. Dieu dit ça de vous. Dieu dit que vous êtes merveilleux, que vous êtes une créature merveilleuse. Cessez de vous détester, cessez de vous haïr. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Vous avez valu, vous avez tant de valeur. Vous avez tant de valeur à ses yeux. Comprenez cette valeur. Comprenez la valeur du rachat de Jésus à la croix. Comprenez ça. J'aimerais lire dans la Louis II, dans Semeur. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Vous êtes une merveille de Dieu. Vous savez, je pense qu'il y a les 7 merveilles le globe, les 7 merveilles du monde. Vous êtes une merveille de Dieu. Vous valez bien plus qu'une de ces merveilles du monde, parce que ça, c'était construit de main d'homme. Vous êtes une merveille parce que vous avez été construit, vous avez été créé, modelé dans la main du Père de gloire. Celui qui a tout créé. Et vraiment, si vous avez cru les mensonges du diable au point de vous détester, bien, des fois, ça peut vous avoir empêché de croire la parole. Et ces mensonges ont été tellement imprégnés, tellement médités. Souvent, le diable commence juste par une petite semence, un petit truc, et on peut décider de le prendre et de le méditer, et là, ça peut devenir gros, ça devient gros, ça devient gros, ça devient immense tellement que c'est plus gros que ce que Dieu dit dans sa parole. Ça devient tellement gros qu'on ne croit même plus ce que dit Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Si les pensées que vous entretenez ne vous font pas du bien, si les pensées que vous entretenez à propos de vous, à propos de votre corps, à propos de votre personne, à propos de qui vous êtes, ne vous font pas du bien, ce n'est certainement pas la pensée du cœur de Dieu. Parce que Dieu dit que vous êtes une créature merveilleuse et votre âme le reconnaît bien. Ça veut dire que vous devez méditer sur cette vérité afin que votre âme le reconnaisse. Vous devez le méditer tellement à un tel point que ça prend le dessus sur les pensées. Ça prend le dessus sur ce que vous avez cru peut-être pendant tant d'années. Peut-être vous avez cru tellement pendant tant d'années que même vous êtes chrétien puis vous croyez pas ce que Dieu dit. Aujourd'hui, on renverse les faux raisonnements. Dieu veut qu'on renverse les forteresses. Satan, c'est le père du mensonge. Si c'est le père du mensonge, ça veut dire qu'il a des enfants. Il enfante des enfants. Mais la parole de Dieu dit que vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants du diable quand vous avez été nés de nouveau. Vous avez été transférés d'un royaume à un autre. Vous êtes devenus des fils, des filles. Donc, vous n'êtes plus les enfants du diable. Vous êtes les enfants du roi de gloire. Vous avez part à l'héritage. C'est très grand. C'est très gros. Et Dieu dit de vous, je le répète, que vous êtes une créature merveilleuse. Si vous ne le croyez pas, vous devez méditer. Je vous encourage, méditez sur cette vérité. Vous êtes une créature merveilleuse. Alléluia! Croyez-le. Croyez Dieu ce matin. Croyez-le. Peut-être on vous a bafoué toute votre vie. Peut-être on vous a dit que vous étiez absolument nul, que vous accompliriez jamais rien dans la vie. Peut-être on vous a dit que vous serviez à rien. Vous étiez inutile, incompétent, laid, laide. Toutes les choses laides que vous pouvez imaginer, toutes les choses désagréables que vous pouvez vous imaginer. déracinons ça ce matin avec la parole de Dieu. Dieu veut semer la vérité de sa parole dans nos cœurs ce matin. Dieu veut semer la vérité de son amour dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Et même souvent, les mensonges du diable peuvent devenir tellement, mais tellement immenses que ça nous empêche de grandir spirituellement. Des fois, on passe plus de temps à méditer sur les mensonges du diable que sur la parole de Dieu. Parce que ça prend le dessus, et là, on se complaint là-dedans, on se fait un party de petite fête de pitié. On peut même se regarder dans le miroir et pleurer. Au lieu de s'attarder à ce que Dieu dit à propos de nous. Et dans ces moments-là, bien, ça nous empêche de grandir spirituellement parce qu'on ne peut pas recevoir la viande spirituelle. On ne peut pas recevoir de nouvelles révélations. On peut juste rester au lait. Le lait du nouveau-né. Mais Seigneur Dieu veut nous amener vraiment plus loin dans la compréhension de son amour, de la compréhension de qui nous sommes devenus en lui. Afin qu'on puisse grandir spirituellement. Dieu nous appelle à être des adultes spirituels. Dieu nous appelle à être des arbres grands, verts, plantés près du courant d'eau, toujours connectés à la source. Toujours connectés à la source. Afin qu'on ne perde pas notre feuillage vert. Et il n'est jamais trop tard, soit dit en passant. Il n'est pas trop tard. Certains vous pensez, « Ah ouais, j'ai perdu mon temps, hein, toutes ces années-là, croire les mensonges du diable. » C'est fini aujourd'hui. Stop it! C'est assez. C'est assez. Dieu dit, c'est assez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit la vérité. Et Jésus est venu démontrer le cœur de son Père sur la terre. Il a fait plein de bonnes choses. Il était rempli de compassion, rempli d'amour. Il se promenait, il guérissait les malades. Il faisait du bien. Et il représentait son Père céleste sur la terre. Il s'est incarné pour représenter l'amour du Père. Jésus, c'est notre exemple parfait. Et Dieu veut nous amener à être comme Jésus, afin que l'on puisse représenter son amour, être tellement rempli de son amour qu'on puisse le représenter d'une façon extrêmement glorieuse. Ouais, méditer. C'est comme méditer, pas à la façon Nouvel Âge, là. Tu sais, ce mot était un peu tordu. Mais méditer, ça veut dire comme une intense réflexion. Qu'on porte les choses de Dieu dans une intense réflexion afin qu'on puisse comprendre qu'il est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour, afin qu'on puisse comprendre la gloire de son héritage, afin qu'on puisse comprendre qui nous sommes devenus en lui. Nous sommes co-héritiers, afin qu'on puisse comprendre l'infinie grandeur de son amour et de sa puissance. Alléluia! Une chose que j'ai compris, bien, compris, d'une manière imagée. Tournez avec moi dans Romains 5:5. Alléluia. Romains 5:5. Alléluia. J'aime bien donner des images. Je voudrais vous donner une image afin que, bien, tu sais, on comprend mieux souvent. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes visuel? OK. L'amour de Dieu est liquide. Ça dit, moi je vois l'amour de Dieu comme un liquide. Romains 5:5 dit, « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu. Répandu, un synonyme déversé. Déversé. Alors je vais vous inviter à fermer vos yeux et vous imaginer comme étant un flacon, une bouteille vide. Moi, j'imagine, riez pas là, mais vous pouvez rire en fait. J'imagine l'amour de Dieu. Vous connaissez le Pepto-Bismol? Le gros liquide rose épais. Tu sais, dans l'annonce, là, ça remplit, ça coule, ça l'enveloppe. Vous êtes comme cette bouteille. Vous êtes comme tout votre être entier. Et je ferme mes yeux quand je m'imagine l'amour de Dieu. Fermez vos yeux et imaginez du ciel un liquide épais, rose, qui est déversé dans votre être tout entier, de la tête jusqu'aux pieds, ou des pieds jusqu'à la tête, comme vous voulez bien l'imaginer. Rempli, 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 rempli. Alléluia. 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 Est-ce que vous le voyez? Gloire à Jésus. Eh bien, son amour, c'est ce liquide, c'est comme le sang de Jésus. C'est sûr, le sang de Jésus n'était pas rose. Mais le sang de Jésus était versé pour vous remplir dans tout votre être entier. Tout votre être entier doit être imbibé, veut être imbibé de l'essence même du sacrifice de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, tellement précieux. Dans le sang de Jésus contient la vie. Dans le sang de Jésus contient la guérison. Sa paix parfaite. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur veut vraiment nous libérer de toutes sortes de fausses pensées ce matin. Et vraiment, son amour est répandu dans chacun de nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, afin que ça vienne inonder notre être tout entier. Et quand je passe mon temps avec le Seigneur, je dis, Seigneur, viens, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Viens répandre une fois de plus ton amour. Je veux juste le laisser couler. Mais vous savez, dans notre vie de tous les jours, des fois, on peut se laisser remplir de d'autres choses, de la présence de Dieu. On peut se laisser remplir des choses du monde. Et j'aimerais attirer votre attention vraiment sur le fait de de quoi on veut être rempli. De quoi voulez-vous être rempli? De quoi voulez-vous être rempli? On peut soit être rempli de sa présence, toute la plénitude à déborder, de toute sa plénitude à déborder. On peut être rempli de d'autres choses. Le diable aimerait bien qu'on soit rempli de toute sa pourriture. Le diable aimerait bien qu'on soit rempli de toutes ses mauvaises pensées, qu'on soit rempli de péchés, qu'on soit rempli de convoitises, qu'on soit rempli de toutes les choses futiles du monde. Vous comprenez? On peut se nourrir des choses du monde, mais quand on est né de nouveau, le Seigneur Dieu aimerait qu'on s'entretienne avec des cantiques, avec des louanges. Dieu veut qu'on s'entretienne avec des choses de son royaume, afin vraiment qu'on soit, parce qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Quand on vient dans sa famille, on comprend pas tout d'un seul coup. Et vraiment, notre esprit est né de nouveau, mais le Seigneur veut qu'on soit rempli des choses de son royaume, qu'on soit rempli de sa parole, qu'on soit rempli de ses louanges, afin qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut changer notre façon de penser. Dieu veut changer notre façon de voir les choses. Et c'est avec cet amour qui est répandu dans nos cœurs qu'on va pouvoir vraiment saisir avec l'esprit de révélation. Je prie vraiment qu'il y ait un esprit de révélation ici ce matin. Un esprit de révélation afin qu'on comprenne encore plus profondément quelle est la pesanteur de cet amour. Nous voulons être remplis. Vous savez, quand je suis venue au Seigneur, c'est drôle, il y a des choses, vraiment, j'ai eu la grâce de cesser. J'ai été élevée chrétiennement, mais j'ai délaissé le Seigneur pendant 7 ans, parce que moi, je l'avais l'affaire. Non, mais en fait, j'ai toujours su que Dieu, c'était la vérité. J'étais juste comme pas prête à m'abandonner, parce que je savais ce que ça représentait. Je savais que Dieu était la vérité, que Jésus était la vérité, qu'il était le seul chemin, qu'il était la vérité et qu'il était la vie. Mais je n'étais pas prête à m'abandonner complètement. Mais quand je suis venue au Seigneur, je peux vous dire, je me suis donnée au Seigneur. Je me suis dit, moi, quand je vais faire ça, là, ça ne sera pas juste un peu. Ça va être de tout mon cœur. Et j'avais plein de musique du monde. Puis vraiment, j'ai fait du ménage tout de suite au début de ma vie chrétienne. C'était comme si, là, je n'étais plus capable d'entendre ça. Il y a des choses, là, ça méritait. Je ne vous dis pas qu'il y a pas de la belle musique, là, qui vient pas de Dieu, mais s'il y a de la belle musique classique, bon, il y a des trucs qui parlent de belles choses, mais vraiment, il y a des choses, ah, moi, les chansons qui veulent rien dire, je suis pas capable. Je sais pas pour vous, là, mais quand on comprend qu'est-ce qu'on a reçu, je me dis, ben ça veut rien dire, ça. J'ai fait un ménage. C'est quand je me dis, ben je peux soit me remplir de la louange, je peux soit me remplir des paroles qui élèvent le nom de Jésus, je peux soit me remplir des choses qui vont construire mon esprit, construire mon âme, ou je peux remplir ça de toutes sortes de déchets aussi. Vous savez, à la télévision, il y a toutes sortes de choses qui sont inappropriées quand on est un enfant de Dieu. Ça aussi, j'ai fait le ménage. Dieu vous invite à faire le ménage. Vous savez, notre esprit témoigne à notre... L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'on est un enfant de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, si vous voyez des choses qui déplaisent à Dieu, ou si vous entendez, vous écoutez des choses, si vous avez des conversations qui déplaisent au cœur de Dieu, votre esprit va vous le dire. Vous allez être comme attristé à l'intérieur de vous. Et Dieu nous appelle vraiment à nous remplir de sa présence, nous remplir de ces choses qui vont nous transformer. Et plus il y a de la place, plus qu'on fait de la place pour sa présence, plus que il y a moins il y a de place pour le reste. Quand je passais ma balayeuse, Dieu m'a donné un download, parce que comme je vous ai parlé, j'ai eu un bon père. Et j'ai eu vraiment cet esprit, m'a dit, en fait, c'est parce que je prie quand je passe ma balayeuse. On peut tous faire ça, il faut racheter le temps. Ben, c'est la seule façon que j'ai trouvé de prier sans cesse, en fait, dans mes tâches ménagères et en tout temps. Et vous savez, ce bon père que nous avons, certaines personnes ne le connaissent pas. Et Dieu nous appelle à nous approcher de lui. Et Dieu m'a dit, certaines personnes, certains de mes enfants, je parle de mes enfants, ont tellement peur du rejet qu'ils n'osent pas s'approcher de leur Père céleste, de peur d'être rejetés par lui. Certains d'entre vous, certaines personnes qui écoutaient ce message avaient peur de vous approcher de votre Père céleste parce que vous avez peur d'être rejeté par lui, parce que vous avez vécu du rejet, parce que vous vivez du rejet, parce qu'on vous a rejeté quand vous étiez jeune, parce qu'on vous rejette présentement, parce que la société vous a rejeté, peu importe la forme de rejet. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'intimité avec lui, c'est le remède. L'intimité avec le Père qui vous a tant aimé, qui dit de vous que vous êtes une créature merveilleuse, est le remède. Approchons-nous de lui avec confiance. Jérémie 31:3, j'aimerais relire, mais en fait, je vais le lire, mais dans la version sommaire. Ça dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Dieu nous attire à lui par l'affection qu'il a pour nous, par l'affection qu'il a pour vous et moi. Il veut nous attirer. Dieu ne vous rejettera jamais. Il vous a créé intentionnellement. Intentionnellement, Dieu vous a créé. Vous vous souvenez cette image du morceau de casse-tête? Vous êtes un morceau de casse-tête qui fait parfaitement dans le cœur de Dieu. Il ne peut vous rejeter. Vous avez une place toute spéciale dans son cœur. Donc, Dieu nous appelle, Dieu vous appelle à s'approcher de lui avec confiance, avec audace. C'est-à-dire, approchez-vous du trône de la grâce avec audace. Approchons-nous avec audace du trône de la grâce. Des fois, quand je prie, je m'imagine que je suis sur les genoux du Père céleste. C'est des choses, hein, c'est des choses en fait, je me trouvais des trucs, parce qu'avant, quand je priais, j'avais l'impression que ça montait pas plus haut que le plafond, puis je me disais, j'ai besoin d'avoir comme des trucs pour vraiment rester avec toi, là, Dieu. J'ai besoin de rester. Et en fait, je me fais une image de Dieu le Père dans sa gloire, assis sur son trône avec le pan de sa robe qui est vraiment comme... Puis souvent, comme je suis à genoux, je me prosterne, je l'adore, je le remercie pour son amour. Je le remercie. Quand j'ai vu cette image-là pour la première fois, j'ai fait « Wow, OK, je comprends. » Et vous pouvez vous imaginer sur les genoux de votre Père céleste qui vous prend tendrement, qui vous dit, qui vous aime, que vous êtes accepté. Vous êtes accepté, il ne peut pas vous rejeter. Votre Créateur ne peut vous rejeter parce que c'est lui qui vous a conçu dans son cœur avant toute chose. Gloire à Jésus. Alors, Dieu nous demande d'entrer dans sa présence, mais imaginez-vous que ça va nous prendre du temps. Dans la vie, nous avons tous 24 heures. Chacun, nous avons tous 24 heures. Et on a tous la liberté de gérer notre temps comme bon nous semble. Mais Dieu nous appelle à mettre du temps à part pour lui. Dieu nous appelle à mettre du temps à part pour le rencontrer, pour s'asseoir sur ses genoux, pour entendre qu'est-ce qu'il y a à dire. On n'a pas besoin d'arriver avec notre grande liste d'épicerie. Laissez-vous aimer par celui qui vous a créé. Et moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que quand on entre dans sa présence, on entre dans le repos parfait de Dieu. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 4:10? On entre dans le repos de Dieu. Sa présence représente le repos de Dieu. Et je peux vous dire, entrer dans sa présence va nous faire gagner du temps. Moi, je peux vous dire, quand je commence ma journée, j'aime bien ça, me lever avant tout le monde. Je ne suis pas plus spirituelle qu'un autre. J'ai juste découvert avec la vie que j'ai que c'est la façon où je vais être vraiment certaine que je vais mettre du temps à part pour Dieu. Parce que la vie, ça va vraiment vite. Vous êtes d'accord avec moi? La vie, ça va très vite. Et moi, j'ai trouvé pour moi que le temps, avant que tout le monde se lève, c'est le meilleur temps. Et quand je mets ce temps-là à part pour Dieu, boy, que la journée va bien. La journée va tellement bien. Puis, me semble que quand la journée n'a pas commencé dans cette communion avec Dieu, c'est correct, là, je me réveille, puis je réalise, ouais, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est en moi, je lui parle, et puis tout ça. Mais on dirait, tu sais, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un petit plus, c'est comme la journée est bien huilée quand je lui donne les prémices de mon temps. Mais l'important, c'est qu'on mette du temps à part pour lui. Et je peux vous dire que ce que nous allons bénéficier dans sa présence va nous faire gagner du temps dans la vraie vie. Et moi, vraiment, je suis dans une quête de sa présence et j'aimerais vous donner cette soif pour la quête de sa présence. Et, tu sais, vous savez, je conduis la louange. Pour moi, c'est, je le fais, mais vraiment, c'est par remerciement. Par reconnaissance. Vraiment, je le fais parce que je recherche sa présence. Et rechercher sa présence va signifier que ben, je vais le remercier. Je ne peux pas juste arriver puis sortir ma liste d'épicerie. Je vais dire, oh, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Et vraiment, on a tous besoin des choses. Je peux vous dire, on a tous besoin des choses. Et oui, le Seigneur aime qu'on lui demande des choses. Mais une fois qu'on a compris, mais Dieu veut qu'on recherche sa présence par-dessus toute chose, parce que ça dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je peux vous dire que si on met du temps à part pour lui, on va s'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vous savez, ici au Québec, le système de santé... Disons que c'est pas le meilleur sur la planète. On a un bon système de santé, mais il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois fermement que quand on prend du temps dans la présence de Dieu, quand on prend du temps à être avec lui, avec celui qui est l'auteur de la vie, avec celui qui a des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Quand, comme on va passer du temps dans sa présence, on va recevoir de lui, on va recevoir la vie, on va recevoir la guérison pour nos corps. On va recevoir la paix pour nos cœurs qui ont tant besoin de paix. Il y a tellement de mal dans l'âme de nos jours. Les gens, la société est remplie de gens dépressifs, de gens qui luttent contre des esprits de dépression, de gens qui luttent contre des esprits de suicide, des gens qui luttent contre vraiment un mal de l'âme. Et la maladie, le cancer, c'est le mal du siècle. La dépression, c'est un autre mal du siècle. Et pourtant, on vit dans une ère où on a la technologie. On n'a supposément pas la vie aussi difficile qu'il y a peut-être 100 ans. Les gens ne se compliquaient pas la vie, mais les gens avaient, s'il y avait d'essentiel, il y avait la foi. Ils avaient Dieu. On parlait de Dieu dans la société. Dieu faisait partie des valeurs. C'était la valeur, c'était la personne qui donnait les valeurs. Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Et on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir de ses valeurs, mais pour recevoir de sa vie. Et comme on passe du temps dans sa présence, comme vous passez du temps dans sa présence, vous allez vous sauver du temps, vous allez vous gagner du temps. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez vous éviter des rendez-vous chez le médecin. Vous allez vous éviter des rendez-vous chez le spécialiste. Vous allez vous éviter toutes sortes de malheurs, de toutes sortes de choses qui sont désagréables, qui viennent vous voler, vous égorger, vous détruire, parce que ça, c'est les plans du diable, c'est les plans de l'ennemi. C'est dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. Est-ce que vous allez être une proie facile à dévorer? Ou vous allez vous ancrer dans la parole de Dieu, connaître ce qui vous appartient? Dieu appelle son peuple à s'enraciner dans sa parole afin que ses enfants puissent savoir qui ils sont devenus en lui, quelle est la richesse de son héritage, quelle est la grandeur de son amour, afin qu'on puisse vaincre les œuvres du diable, afin qu'on puisse vaincre tous ses projets qu'il y a pour nous. Ces projets ne sont pas bons, mais les projets de Dieu sont excellents. Ces projets, les projets que Dieu a pour vous, qu'il a pour moi, sont des projets de paix, de bonheur, un avenir, de l'espérance. Alléluia! Vraiment, j'aimerais que vous saisissiez cette vérité parce que il y a 15 ans, quand j'ai eu un diagnostic désagréable sur ma vie, de maladie, on m'a dit « Ah ouais, c'est incurable ». Moi, j'ai dit « OK, mauvaise réponse ». Et là, j'ai médité. Si vous avez besoin de guérison, Dieu aimerait que vous connaissiez les promesses de guérison sur votre vie. Si vous luttez contre la dépression, Dieu aimerait que vous connaissiez les promesses de paix et de joie pour votre vie. Il a des projets de paix. Et j'aurais pu méditer, j'avais le choix, hein, quand j'ai reçu le diagnostic, en fait, j'aurais pu méditer sur tous les symptômes probables, les trucs horribles qui auraient pu m'arriver. Si ça dégénère, il peut arriver ça. Si ça dégénère, il peut arriver ça, 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 ça. Ah, je me suis dit, c'est bien trop déprimant, ça. Non. Et moi, je refusais. Écoutez, je venais de me marier, là. J'ai dit non. Non, 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 non. Et j'ai eu la grâce d'avoir un mari extrêmement merveilleux et compréhensif qui m'a fait connaître des ministères merveilleux où on parlait. J'ai choisi de découvrir la vérité de la parole, mais dans la vie. Et puis, d'une façon un peu triste, j'ai été élevée dans l'église traditionnelle où le seul bénéfice, je crois, que je pouvais avoir, c'était d'être sauvée. À la fin de ma vie, je sais, je vais être au ciel. Mais cette chose-là, cette maladie m'a fait découvrir que vraiment, j'étais née pour bien plus que ça. J'étais sauvée pour bien plus que me rendre au ciel de peine et de misère. Frères et sœurs, on n'est pas appelés à se rendre au ciel de peine et de misère. On est appelés à vivre sur cette terre les promesses, que ta volonté vienne sur, que ta volonté au ciel soit faite sur la terre. Est-ce qu'il y a de la maladie au ciel? Pensez-y, là. Est-ce qu'il y a du monde dépressif au ciel? Est-ce qu'il y a du monde qui vit dans le découragement au ciel? Est-ce qu'il y a le désarroi? Est-ce qu'il y a l'opposition? Même pas. Eh bien, Dieu nous appelle à vivre le maximum de ses promesses ici, sur cette terre. Gloire à Dieu. Et vraiment, je me suis mis à méditer. J'ai dit, OK, ben, je ne méditerai pas sur les symptômes horrifiques, horribles, désagréables, possibles, parce que je me suis dit, ben, je vais nourrir cette chose. Je refuse de nourrir cette chose. J'ai refusé de nourrir la maladie. J'ai refusé de nourrir les symptômes. De la même manière, vous pouvez refuser de nourrir les pensées de rejet. Vous pouvez choisir de refuser les pensées de dépression, de rejet. Vous pouvez choisir de refuser tout ce qui tue, tout ce qui vole, tout ce qui égorge, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous donne le mal de l'âme. Refusez ces pensées. Refusez de méditer sur ces choses. Refusez. Mais méditez sur celui qui donne la vie. Méditez sur les promesses de celui qui peut tout, absolument tout changer. Méditez sur l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix. Lui qui a tout payé pour qu'on soit libre. Libre! Libre! Libre de toutes ces choses. Alléluia! Alléluia! Vous savez, on vit dans un autre royaume quand on est un enfant de Dieu. Un autre royaume. Nous sommes transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières, gloire à Dieu. Et son royaume, le royaume de Dieu, ne fonctionne pas comme le royaume de ce monde. Et ce n'est pas de spécialiste en spécialiste ou de réunion en réunion que vous allez trouver réponse. Mais c'est vraiment dans la plus grande intimité du Père. Oui, vous pouvez trouver absolument, ne délaissez pas vos assemblées. On a besoin de se réunir entre frères et sœurs, s'exhorter, se fortifier, venir recevoir une parole de vie, une parole édifiante, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas en pensant de réunion en réunion, en allant de réunion en réunion, que vous pouvez penser que vous allez obtenir votre victoire, que vous allez obtenir votre délivrance. Mais c'est une question d'intimité, c'est dans le lieu secret que vous trouverez la guérison pour votre âme, que vous trouverez la paix que vous cherchez depuis tellement longtemps. Vous savez, quand vous avez peut-être accepté le Seigneur Jésus il y a plusieurs années, mais peut-être vous aviez peur que ça fasse mal de recevoir son amour, comprenez? Mais comme on comprend que Dieu vous a tellement aimé, que Dieu vous accepte, qu'il ne vous rejettera jamais, Dieu nous appelle à être un intime de lui. À ce qu'on se connaisse mutuellement. En fait, Dieu vous connaît parfaitement. Et comme on va de gloire en gloire avec lui, comme on s'approche de lui, comme on prend du temps dans sa présence, on va être transformé. Transformé complètement, non seulement dans nos pensées, on va pouvoir rejeter les mensonges du diable qui vous ont tenu captifs. Les mensonges du diable qui vous ont tenu captifs peut-être pendant tant d'années. Vont pouvoir être déracinés pour que la racine de l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour parfait, puisse vraiment s'enraciner profondément dans votre cœur. Mais vous avez besoin de vous approcher de celui qui peut tout changer. Vous avez besoin de passer du temps avec votre Père céleste. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, comme vous passez du temps dans sa présence, laissez-vous remplir de son amour liquide. Laissez-vous remplir de son amour liquide. Laissez-vous remplir. Laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Laissez-vous changer. Vous savez, sa présence, ça représente vraiment la liberté. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Tournez avec moi dans Ésaïe 61, s'il vous plaît. J'aime infiniment ce passage. Dans le fond, c'est... Oui, c'est ça. Ça prophétise Jésus, l'œuvre de Jésus. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, et pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia! Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice pour une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia! Dieu veut que vous serviez à sa gloire. Dieu veut que vous soyez transformés. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est l'œuvre que Jésus est venu faire ici. Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu veut guérir votre cœur brisé aujourd'hui. Dieu veut guérir votre corps malade aujourd'hui si vous le laissez faire. Dieu veut que vous laissiez tomber vos gardes. Vous étiez construit un genre de mur de protection. Ça, c'est une fausse protection. C'est le diable, avec ses pensées, avec ses faux raisonnements. Ça s'est tout construit. Et la parole de Dieu vient complètement, on vient détruire. Mais sa parole dans notre bouche, la parole de Dieu dans mon cœur et dans ma bouche. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous ayons sa parole dans notre cœur et dans notre bouche afin de détruire les œuvres du diable, afin qu'on puisse avoir une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Comment est-ce qu'on va faire ça? En le cherchant dans la plus grande intimité, en le poursuivant. Est-ce que vous voulez le poursuivre? Est-ce que vous le poursuivez? Si vous ne le poursuivez pas, j'aimerais vous donner cette soif aujourd'hui de le poursuivre pour vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait et vraiment pour que vous soyez transformés dans sa présence. Puis, je peux vous dire que dans sa présence, il y a une extrême liberté. Et ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'on doit être plus concerné de ce que Dieu dit de nous que ce que les hommes peuvent dire de nous. Ça, c'est bien plus important. Ce que Dieu dit de vous que ce que les hommes disent de vous. Les hommes peuvent dire toutes sortes de méchancetés, peuvent dire des mensonges. Vous savez, au début du ministère avec mon mari, il y avait quelqu'un qui avait parlé contre les trucs de l'esprit et moi, j'étais offusquée. Puis là, mon mari dit, « Ma femme, il faut vraiment que tu t'habitues avec ça. » Il dit, « Faut pas que ça te dérange. » En fait, j'ai vécu un processus où j'ai dû vraiment mourir à l'opinion des gens. Parce que vous savez, quand on est une femme de pasteur, on est regardée. Ouais, ça peut être un peu désagréable parce qu'on peut être tout analysé dans tout ce qu'on fait, dans ce que je peux dire, je peux être analysé. Si je souris, si je souris pas, si je dis bonjour, si je dis pas bonjour, je peux être analysé sur... même chose quand j'ai commencé à conduire le ministère de la louange. Boy, my. Qu'est-ce que le monde va dire? C'est sûr, il y en a des bien meilleurs que moi. Et puis, vous savez, j'aurais vraiment pu méditer là-dessus. Mais mon mari m'a dit, ma femme, il faut vraiment mourir à l'opinion des gens. Et l'important, ce que j'ai vraiment compris, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que vous devez vous préoccuper de l'opinion de Dieu à propos de votre vie. Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Est-ce que votre vie est un témoignage pour le nom de Jésus? Ce que Dieu dit de vous, c'est bien plus important. Parce que les gens peuvent nous faire de la peine, les gens peuvent nous blesser, les gens peuvent dire toutes sortes de mensonges même à propos de nous. Puis je peux vous dire, on en a dit des mensonges à propos de moi, à propos de mon mari. Mais honnêtement, c'est pas parce que votre opinion me dérange pas, m'importe pas. Mais j'ai appris à vivre au-dessus de l'opinion des gens. C'est pas que je suis pas concernée, que vous pensez que c'est bon ou c'est pas bon. L'important, c'est que je sois dans la volonté de Dieu. L'important, c'est que vous soyez dans la volonté de Dieu. Être à la volonté de Dieu, c'est d'être à la bonne place au bon moment. Tu sais ce que c'est? Être à la bonne place au bon moment. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Êtes-vous en train de faire ce que Dieu vous demande de faire? Est-ce que vous dites ce que Dieu veut que vous disiez? Alors, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Quand j'ai commencé à chanter, vraiment, je vous dis, ce que je fais dans le ministère, c'est par obéissance. Parce que j'ai jamais recherché le micro. Puis demandé à mon mari. Moi, je suis très bien là où vous êtes assis. J'aime bien ça. J'aime la vue. J'aime bien recevoir. Je trouve ça super. Mais vous savez, quand on est dans la volonté de Dieu, on est béni. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes béni. Et quand on sait qu'on fait pas quelque chose qu'on serait supposé de faire, c'est là qu'on est malheureux. Puis vous pouvez vous reprendre. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans la volonté de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est bien. Et faire ce que Dieu veut nous amène une extrême liberté. Puis je peux vous dire que la révélation de ça, là, la révélation de son amour, va nous connecter à la source ultime de notre victoire, Jésus. La révélation de son amour va nous connecter, vous et moi, à la source de notre victoire. La source de notre victoire, c'est Jésus. Son amour va nous rendre libres. Son amour va vous rendre libre de toutes sortes de choses. Et quand on ne connaît pas son amour, on peut vivre toutes sortes de choses comme la dépendance affective. Peut-être que vous avez besoin d'être aimé des hommes ou des femmes d'une façon impressionnante, plus que vous avez besoin de l'amour de Dieu. Peut-être que vous avez besoin de plaire aux hommes plutôt qu'à lui. L'opinion des gens surpasse ce que Dieu pense de vous. Peut-être que vous vous remplissez de toutes sortes de choses qui vous font du tort parce que vous n'êtes pas rempli de l'amour de Dieu. Mais son amour va vous rendre libre. Va vous rendre libre de la dépendance affective. Parce que c'est le seul qui peut vous aimer réellement et parfaitement. Réellement et parfaitement. Il est le vrai amour et c'est cet amour que nous devons rechercher. Le vrai amour, l'amour véritable, l'amour pur, 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 sans arrière-pensée, sans condamnation. C'est lui seul qui possède cet amour-là. Tantôt, je parlais des trucs qu'on peut se remplir. Peut-être que vous vous remplissez de l'alcool parce que vous avez besoin de combler un vide. Peut-être que vous vous remplissez de drogue ou de narcotiques ou de je sais pas trop. Peut-être que c'est pas nécessaire pour vous de vous remplir de toutes sortes de choses qui vous donnent un high. Peut-être que vous êtes attiré vers ces choses-là. Peut-être que vous vous remplissez de nourriture. Peut-être que vous avez besoin de manger compulsivement. Peut-être que vous faites des choses par compulsion parce que vous avez besoin de remplir un vide. Et le Seigneur veut vous libérer de ça aujourd'hui. Le Seigneur veut vous libérer de toutes sortes de dépendances néfastes qui nuisent à votre vie. Vous savez, moi j'aime les souliers. Et j'ai déjà vu une émission, une femme était absolument compulsive, elle aimait les souliers, mais elle avait des garde-robes et des garde-robes et des garde-robes de chaussures. J'aime ça, là. Si je pouvais en avoir autant, c'est correct. Mais pas pour remplir un vide. Vous comprenez? Cette femme-là magasinait compulsivement parce qu'elle cherchait à remplir un vide, elle cherchait à combler. Et elle avait l'amour des souliers. Vous trouvez peut-être que mon illustration est ridicule, mais des gens comme ça sur la planète, il y en a plein. Peut-être que vous remplissez votre chose de toutes sortes de choses, vous remplissez votre maison de toutes sortes de choses que vous n'avez pas besoin parce que vous avez peur de manquer. Je ne sais pas, moi. Peut-être que vous vous remplissez de nourriture, vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous mangez parce que vous avez besoin de remplir, de vous sentir toujours plein. Eh bien, le Seigneur aujourd'hui veut vous délivrer. Complètement. Complètement. Peut-être que vous travaillez. Peut-être que vous êtes un workaholic. Peut-être que vous travaillez à l'extrême. Ça comble un besoin. Vous vous êtes gratifié dans votre travail. Mais à un point extrême qu'il n'y a plus de place pour Dieu du tout dans votre vie et que ça vient combler un besoin parce que vous ne voulez juste pas sentir le rejet. Vous ne voulez juste pas sentir des mauvaises émotions. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu dit, « Laissez-vous remplir par mon amour. Connectez-vous à celui qui vous remplit de la vie. » Alléluia. Et quand on a compris, quand on comprend la profondeur de cette révélation qui est l'amour de Dieu, on va être libre de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Vous savez, quand on vient à l'Église, c'est bien qu'on vienne recevoir notre portion, mais vous savez, d'abord et avant toute chose, c'est pour adorer celui qui nous a donné la vie. Je vais inviter mes amis, s'il vous plaît, de la louange. Vous savez, quand on vient ici, par-dessus toute autre chose, moi, je viens et j'ai un cœur tellement reconnaissant. Et quand j'ai compris la grandeur du sacrifice, quand j'ai compris la grandeur du cadeau que j'avais reçu, quand on comprend la grandeur de ce cadeau-là, on ne peut pas rester les mains liées. On ne peut pas rester la bouche muette. Impossible. Impossible. Et je peux vous dire, quand je loue le Seigneur, je loue toutes mes tripes. Et je sais que je peux faire encore plus. Parce qu'il m'a aimé bien plus que moi, je peux lui rendre. Et quand je viens ici l'adorer, quand on vient ici, je veux lui rendre toute l'affection. Toute l'affection qui m'a portée. Et je veux le louer, je veux l'adorer parce qu'il est tellement grand, il est tellement merveilleux. Il m'a tellement donné. Je ne suis pas capable de garder ma bouche fermée. Puis peut-être qu'il y en a qui peuvent me trouver ridicule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, vraiment, ce que j'ai compris, c'est que ça a semé une passion dans mon cœur. Et de comprendre la grandeur de son amour. Et plus je comprends, plus je veux m'approcher de lui, plus je m'approche de lui, plus je comprends, plus je saisis, plus Dieu me révèle qui il est. Plus je m'approche de lui, plus il me révèle son amour. Et vraiment, quand on comprend ça, on peut être libre. Libre de l'opinion des gens, libre de sourire, libre d'être dans la joie, libre d'être dans la paix. Vous pouvez être libre aujourd'hui. Son sacrifice vous a acquis la liberté. Vous savez, vous étiez dans une prison peut-être avant. Avant d'être né de nouveau maintenant, le sang de Jésus vous a purifié, vous a lavé à la nouvelle naissance. Et la porte de la prison est ouverte. De grâce, sortons. 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 Et cette petite cage peut sembler sécure. Cette petite cage peut, cette prison peut sembler confortable. Parce que quand on est habitué d'être dedans, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Mais quand on découvre que Dieu a bien plus que cette petite cellule, cette prison, waouh! Une fois, j'avais rêvé que quelqu'un vivait dans une maison, une toute petite pièce, juste une pièce. Et la personne était toute fière de me montrer. C'était décoré, mais vraiment des trucs, vraiment ce qu'il y a de plus bas dans le budget. Et en fait, je la regardais, cette personne-là, me montrer son appartement, qui était en fait sa pièce, où elle vivait. Et toute fière, et dans mon cœur, dans mon rêve, j'étais triste. Je me disais, ah, mais ça pourrait être... Dieu voulait encore plus. Et je suis sortie de la pièce et je me suis éloignée et j'ai vu au loin une maison. Une très grosse maison. Une très, très grosse maison. Et toutes les pièces étaient dans le noir. Je voyais, les fenêtres étaient toutes exceptées. La petite lumière de la pièce où la personne vivait. Et j'ai fait, oh, Mais j'ai dit, toute la maison lui appartient, puis elle ne sait pas. Toute la maison lui appartient, puis elle ne sait pas. Dieu a réservé pour vous une maison remplie de belles choses et pas juste de petits budgets. Dieu a un grand budget. Dieu a un très grand budget. Dieu possède toutes les richesses. Il possède toutes les richesses. Et Dieu veut que vous exploriez les pièces. Et j'ai déjà rêvé aussi que moi-même, dans ma propre maison, je découvrais des nouvelles pièces. Puis j'étais émerveillée. J'étais comme, ah, c'est à moi. Oh, là, j'étais toute contente. Puis là, je rentrais dans une nouvelle pièce. J'étais comme, oh, c'est à moi. C'est à moi. Vous avez votre vie avec le Seigneur, c'est cette maison. Vous avez une maison remplie de belles choses, remplie de beaux meubles, remplie de toutes sortes d'abondance. Dieu a une vie d'abondance pour vous. Gloire à Dieu. Dieu a une vie extraordinaire pour vous. Il veut que dans son intimité, vous découvriez chaque pièce, chaque pièce, chaque pièce. Et c'est ce que je découvre dans mon intimité avec lui. C'est de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et c'est ce que le Seigneur veut que vous viviez avec lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voulez découvrir des nouvelles pièces de cette magnifique demeure qui vous appartient? Certainement, vous en avez une au ciel, parce que ça dit que si on est des enfants de Dieu, le Seigneur Jésus nous a préparé une place. Mais dans cette vie ici-bas, Dieu veut qu'on investisse pour l'au-delà, pour quand il va venir nous prendre dans sa présence. Il veut qu'on découvre le maximum. Est-ce que vous voulez découvrir le maximum? Alléluia! Le maximum! Le maximum! Alléluia! Vous savez, les autres ne sont pas responsables de votre bonheur. Les autres ne sont pas responsables de votre bonheur. Vous êtes responsables, nous sommes tous responsables de chercher Dieu pour soi-même. Chercher Dieu pour soi-même et de découvrir les mets succulents qu'il a pour nous. Découvrir toute sa bonté, découvrir toutes ses merveilleuses promesses. On peut être heureux maintenant. On peut cesser de vivre pour les autres maintenant. Vivre pour Dieu. Et cesser de vivre pour l'opinion des autres. On peut le servir librement parce qu'on sait qu'on est accepté. Il y en a qui ne servent pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon. Mensonge des profondeurs de l'enfer. Vous faites voler un privilège. Cessez de vous faire voler vos privilèges. Dieu a une immense réserve de privilèges pour vous. Et Dieu veut restaurer toute votre dignité. En lui, il est fier de vous. Vous êtes rendu juste. Vous êtes rendu juste maintenant. On était condamné, on est juste maintenant. En Jésus. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu cet amour parfait, j'aimerais vous inviter à le faire ce matin. J'aimerais vous inviter. Gloire à Jésus. Si vous ne connaissez pas cet amour, dites simplement, Seigneur Jésus, je reçois ton amour. Comme je viens avec mon besoin de toi, viens et remplis-moi. Viens et transforme-moi. Que ma vie serve pour ta gloire. Alléluia. Vous savez, comme on s'approche de lui avec notre besoin, il peut venir nous combler. Si on ne pense pas qu'on a besoin de lui, ses mains sont liées. On vient avec notre besoin, dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Alléluia. On peut cesser d'être passif. On peut devenir actif pour lui. Devenons vraiment actifs pour son royaume. Qu'on puisse le servir passionnément jusqu'à temps qu'il revienne. Qu'on ne veuille pas perdre une seule minute. Moi, je ne veux pas perdre une seule minute. Une seule minute du temps que j'ai ici. Je veux racheter le temps. Je veux racheter le temps. Je veux racheter le temps. Alléluia. Je veux l'adorer avec ma vie. Je veux l'aimer avec ma vie. Je veux lui rendre cette affection, cet amour qui, qu'il m'a donné. Je veux le remercier avec ma vie. Vous saviez, avant, je n'étais pas prête à faire ça. Maintenant, je ferais n'importe quoi. Je ferais n'importe quoi. Êtes-vous prêt à faire n'importe quoi? Alléluia. J'aimerais juste prier avec vous. Alléluia. J'aimerais prier avec vous. Alléluia. Seigneur, je prie que ce message prenne racine dans les cœurs. Soit un message de délivrance. Ta parole est délivrance. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de délivrance, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, ton amour ne change pas. Ton amour ne change jamais. Et ce matin, Seigneur, on veut élever nos bras. On veut tendre les mains vers celui qui nous a tant aimés et te dire merci. Merci, merci, Seigneur. Viens nous remplir à déborder de cet amour pur et parfait. Seigneur, nous te disons oui. Oui, Seigneur, je veux t'aimer toute ma vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'aimer toute notre vie. Seigneur, ce matin, on veut prendre un engagement de s'approcher de lui. Je viens contre tout esprit de crainte, toute oppression dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que ta présence est la liberté. Alléluia. On veut s'approcher de toi avec audace. Alléluia, avec audace. Alléluia. L'esprit de crainte est brisé dans ta présence. L'esprit de dépression est brisé dans ta présence. La guérison pour nos corps est relâchée dans ta présence. La guérison pour nos cœurs, pour notre âme est relâchée dans ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, on veut boire à ta coupe. On veut boire de tes paroles. On veut boire, Seigneur, de ton amour. Boire par la foi, Seigneur. Se laisser remplir et transformer par toi qui peut tout changer. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais aujourd'hui. Les captifs dans ta présence. Les captifs sont rendus libres à la mention du nom de Jésus. Jésus. Jésus-Christ, Jésus le roi de gloire, qu'il règne sur les cœurs aujourd'hui. Que Jésus, le prince de la paix, règne sur votre cœur aujourd'hui. Que le sang de Jésus vous imbibe tout votre être entier. Alléluia, et vous guérisse dans votre corps maintenant. Alléluia, qu'il vous guérisse dans votre cœur, vous qui avez tant souffert. Remettez à Dieu tous vos soucis. Remettez à lui vos blessures. Remettez-lui vos blessures du passé. Et laissez-le vous guérir. Laissez-le. Laissez-le. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous. Il est toujours là. Il ne s'est jamais poussé. Il n'est jamais parti. Il attend qu'on s'approche de lui. Il attend que vous vous approchiez de lui. Il veut que vous le connaissiez comme ce bon père. Peut-être votre père n'a pas été un exemple. Peut-être votre père vous a laissé tomber. Peut-être vous n'en avez même pas. Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais sachez que vous avez un père dans le ciel qui vous aime, qui vous a créé d'une façon absolument intentionnelle. Peut-être votre père sur la terre vous a laissé tomber. Peut-être qu'il vous a menti, bafoué. Peut-être qu'il vous a fait beaucoup de mal. Mais le Père de gloire, le Père des lumières, est ici pour vous faire du bien. Il vous veut du bien. Il ne vous rejettera jamais. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui afin que vous trouviez du repos pour votre corps, afin que vous trouviez du repos pour votre âme. À lui soit la gloire. J'aimerais juste terminer avec une pensée que comme nous recevons cette parole, comme vous recevez cette parole, vous pouvez vraiment être libre d'être la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Amen. Vous pouvez vraiment être la personne qu'il a toujours voulu que vous soyez. Et dans sa présence, il va vous donner la vision de cette personne transformés à l'image de Jésus. Ça, c'est vous. Amen. Vous allez être libre de briller. Libre de briller pour son nom. Amen. Libre de briller pour lui. Vous n'aurez plus besoin d'être des chrétiens comme tout. Vous allez tellement déborder. Vous allez tellement révolutionner par son amour. Alléluia.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.